Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Elisabeth, bonjour. Après l'histoire de jardins, de flâneries dans des jardins exemplaires, d'ici et d'ailleurs, de promenades à travers les foires et sous les halles, nous continuons aujourd'hui par les usines, pensionnats et la soierie lyonnaise hors les murs. Mais Elisabeth, qu'entend-on par ce terme usine-pensionnat ?
Alors, je vais bien sûr vous parler de ces usines dont l'architecture est tout à fait particulière et reflète complètement le système qui les régissait. Mais auparavant, je souhaiterais préciser que cette émission, nous souhaitons la dédier à Daniel Pelligrat, qui nous a quittés récemment et avec qui j'ai eu le privilège de travailler dans le cadre de l'écomusée Nord-Dauphiné qui se situait à Villefontaine et justement de travailler sur ce thème des usines pensionnats avec la réalisation d'un montage diapo avec une exposition qui a eu beaucoup de succès. Et voilà, c'est une pensée que nous lui adressons en débutant cette émission.
Une pensée particulière.
Voilà. Mm-hmm. Alors effectivement, des usines pensionnats, en fait, c'est relier directement l'histoire de notre région à le Bas-Dauphiné, donc appelé à l'époque, à celle de Lyon et à l'essor prodigieux que cette ville a connu grâce au tissage de la soie développé au XVIe siècle. Et au XVIIIe siècle, cette industrie de la soie était régie par un organisme qu'on appelait la Grande Fabrique Lyonnaise. C'est elle qui régissait l'activité marchande de la soierie. Elle était constituée de marchands fabricants qui dominaient les exécutants, les canuts, maîtres artisans de la soie. On comptait à peu près 300 marchands, près de 6000 chefs d'atelier sur à peu près 15 000 métiers. Et au sortir de la Révolution française, la Grande Fabrique lyonnaise est totalement déstructurée. Et les grandes fortunes des soyeux sont dissoutes. L'égalité républicaine remplace l'ordre établi dans cette structure. Et c'est parce que ces canuts ne parviennent toujours pas à obtenir un tarif qui fixe le prix de la fabrication de l'étoffe, un tarif décent surtout, et donc un salaire minimal, qu'ils se révoltent en 1831, en 1834. Donc ces deux révolutions vont créer vraiment un traumatisme en quelque sorte au sein de cette industrie lyonnaise de la soie. Donc ces violents soulèvements qui vont être vraiment durement réprimés d'ailleurs sont un des facteurs qui incitent les fabricants à favoriser le développement du tissage hors les murs en milieu rural.
C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des métiers à tisser chez des particuliers.
Ça a été la première forme, effectivement, de délocalisation dans le Bas-Dauphiné à domicile. Parce que, alors, ça répondait à plusieurs besoins assez impératifs, mais cette population rurale du Bas-Dauphiné avait des atouts, c'est-à-dire que c'était une population qui savait tisser, parce qu'on tissait le chanvre depuis le XIVe siècle, donc cette population avait déjà un savoir-faire en quelque sorte. Et puis c'était des paysans qui étaient à la recherche d'un complément de revenus, par le tissage à une période où les récoltes, hors récolte quoi, où ils étaient un peu plus libres. Donc il y avait ce double intérêt pour les gens du cru. Mais il y avait aussi des attentes très précises de la part de l'industrie lyonnaise. Pourquoi ? Parce que on avait besoin de bâtiments plus grands et plus fonctionnels pour assurer la mécanisation et pour lutter surtout contre la concurrence d'autres fibres comme le coton. Or, ce n'est pas Lyon intramuros, même colline de la Croix-Rousse, qui pouvait offrir de telles surfaces. Ça, c'est la première raison. La deuxième, on avait besoin d'approvisionnement en énergie. Or, la facilité par un réseau hydrographique intéressant et le Bas Dauphiné par la Fure, la Morge, l'Agny, la Bourbre, des rivières qui offraient des chutes fréquentes et modérées, qui correspondaient vraiment aux besoins de ces usines. C'est ce qu'on appellera les usines au fil de l'eau. Et troisième point, la volonté de recruter une main-d'œuvre nombreuse et une main-d'œuvre moins coûteuse et une main-d'œuvre plus docile. On sortait quand même des révolutions des canuts. Et donc, d'ailleurs, j'ai même lu « docile, robuste, saine de corps et d'esprit, constituée en majorité de femmes et d'enfants ». Il y a toujours eu beaucoup d'enfants une forte proportion d'enfants dans les usines pensionnats. Et comme je vous l'ai dit, déjà formés à une tradition textile, le chanvre, et à une double activité paysan-ouvrier. Cette double activité était un atout. Et parfois, lorsque les commandes étaient très importantes et qu'on était en période de récolte, eh bien, parfois, les directeurs d'usine avaient du mal à avoir leur main-d'œuvre et pouvoir répondre à temps aux commandes, quoi. Voilà. Alors, cette première implantation, comme vous l'avez dit, s'est faite sous forme de tissage à domicile. Et en 1840, plus de 3000 métiers à bras battent dans nos campagnes. Et entre parenthèses, on peut dire à niveau-là, à peu près 800. Et il s'agit de travail à façon et distribué par des donneurs d'ordre. C'est intéressant parce que côté Lyon, on travaillait à domicile le tissage de la soie. Si on va un peu plus côté Côte-Saint-André, plus loin, on travaillait les gants, la pausserie, à domicile. Ah, oui. C'était deux systèmes, mais sur des matières différentes. Et donc, il y a une petite phrase qui illustre ça. Il y a autant de métiers qui tapent que de cœurs qui battent.
Alors,
dans les campagnes.
Elisabeth, donc les usines, on a compris. Et pensionnat, ce qui veut dire que les ouvriers, les ouvrières, rester sur place, c'est
un
ça
certain
quand
nombre,
on dit
oui.
Usine pensionnat,
oui.
Les deux se confondent, c'est-à-dire...
Oui, tout à fait. Il y avait dans ces usines une partie pensionnat. Pourquoi ? Parce qu'on allait chercher les ouvriers assez loin dans les campagnes et donc elles arrivaient le dimanche ou le lundi avec dans des chars à bancs qu'on appelait des galères. Le terme est évocateur. Et elles arrivaient parfois avec leurs enfants et elles venaient pour la semaine. Alors, dans un premier temps, je vais plus parler de la structure, de l'architecture de ces usines. Et puis ensuite, on rentrera dans une deuxième partie, dans la vie de l'usine, parce que c'est très intéressant.
Mais c'était juste
tout
pour
à fait.
Bien rajouter
bien
le mot en deux mots à attacher.
Oui.
Voilà.
Oui, oui, non,
c'est
mais
ça.
C'est parce que... Et même, on va voir que ces usines pensionnats ont été appelées aussi usines couvents, usines cloîtres. Et on va voir qu'à travers l'architecture, il y a, c'est l'architecture qui permet d'évoquer ces noms-là, mais aussi dans la vie même de l'usine, ce rapprochement entre la religion et l'industrie qui s'est fait à un certain moment. Avec, en plus, dans notre région, une particularité, par exemple, sur Bourgoin, où les usines, comme Schwarzenbach, par exemple, étaient tenues par des protestants. Et c'était néanmoins, ces ouvrières, en majorité, étaient encadrées par des religieuses.
Et vous faites mention de usine-pensionnat, usine-cloître. C'est une différence exclusivement architecturale?
Oui, il y a cet aspect architectural dont je vais parler qui rapproche l'usine dans sa conception du cloître. Il y a aussi le fait que certaines ouvrières étaient restaient là non pas à la semaine, mais pour plusieurs mois, et même certaines jusqu'à leur majorité, parce qu'elles étaient orphelines et qu'elles étaient placées là jusqu'à leur majorité. Donc, on assimile un petit peu à cette usine à la clôture du cloître, quoi, voilà.
D'accord. Donc, c'est, comme vous dites, c'est une architecture symbolique pour
un monde à part.
Un monde à part.
Voilà, oui, une architecture. Alors, les usines pensionnats qui accueillent en majorité de jeunes ouvrières, pour certaines pensionnaires encadrées hors temps de travail par des religieuses, certains chroniqueurs de l'époque parleront d'usines couvent ou même d'usines cloîtres, parce que il faut remettre ça dans son contexte. On était dans un monde industriel de paternalisme catholique. Nous, ici, on a eu des protestants aussi, qui étaient critiqués par toute une classe politique plutôt de gauche et qui jugeait de manière péjorative cette formule. Alors, il nous revient de replacer ce système industriel donc dans son contexte économique et politique du paternalisme. Et cette architecture est symbolique pour un monde à part. Et c'est vrai, l'usine était un monde dans la ville. Et l'architecture le montrait bien. Et le premier élément d'architecture qui le montre, eh bien, c'est l'enceinte. L'enceinte, elle marque le territoire de l'usine. Elle rappelle la clôture les hauts murs des abbayes qui isolent du monde extérieur. Ensuite, forcer l'enceinte est vécu comme une agression. Et c'est ce qui s'est passé avec le drame de Château-Villain en 1896, quand la garde républicaine est rentrée dans l'usine et a provoqué la mort d'une ouvrière. L'entrée
de
l'usine, elle est matérialisée par une conciergerie, car l'enceinte est surveillée. Elle est ouverte et fermée par le concierge, et pour le contrôle des ouvrières, arrivées, sorties, et pour le contrôle des marchandises. Et surtout la soie, du fait qu'elle subissait plusieurs opérations entre le tissage, l'ourdissage, tout ça, elle avait des poids différents. Le poids pouvait varier. Et justement, il y avait, avec ces variations de poids, il y avait des possibilités de voler de la marchandise, en quelque sorte. On appelait ça du piquage d'once. Donc, il y avait une surveillance assez forte. Et vous aviez les lieux de vie, le réfectoire, le dortoir, l'infirmerie, la cuisine, des locaux pour l'apprentissage, lecture, broderie, catéchisme, et surtout la chapelle, cloître, chapelle, souvent de style néo-gothique, et où il y avait un aumônier qui était dédié à l'usine, et il y avait des cérémonies, dans les chapelles, et les jeunes filles, le dimanche, étaient obligées de venir assister aux offices. Enfin, une fontaine, qui était un lieu qui pouvait faire office de fontaine qu'on trouve parfois dans les cloîtres, mais qui était un lieu social et où c'était le frigidaire aussi de l'époque. On mettait les choses à rafraîchir pendant l'été. Voilà, et puis il y avait tous les lieux qui servaient à l'industrie, le canal, la turbine, donc l'eau, l'atelier, les entrepôts, les forges, les écuries, voilà. Donc, et certaines usines pensionnats étaient dotées de crèches pour accueillir les jeunes enfants des ouvrières. Et bien sûr, tout près de l'usine, la maison patronale. La maison patronale, maison bourgeoise avec conciergerie, parc, jardin d'agrément, potager, serre, orangerie. Et voilà, c'était tous les éléments qui pouvaient constituer le complexe d'une usine pensionnat.
FM 97.1, suivez le guide avec Elisabeth. Nous sommes dans les usines pensionnats, la soirée lyonnaise hors les murs. Et du double album Bach, les 6 suites pour violoncelle, nous venons d'entendre Pablo Casals au violoncelle dans Prélude de la suite numéro 1 en sol majeur. Donc, Elisabeth, nous sommes dans de l'ethnologie, là, un petit peu avec les usines pensionnats, usines cloîtres et son architecture très reconnaissable en général. On peut reprendre, si vous le voulez bien, un peu cette... Donc, il y a l'usine et puis, comme vous l'avez dit, il y a l'enceinte.
Voilà, oui. il y a
on peut reprendre
toute la il y a le une enceinte qui définit vraiment le monde ouvrier de lié à l'usine et ce mur qui a fait dire usine couvent usine cloître usine couvent aussi parce que les ouvrières étaient encadrées par des religieuses hors temps de travail. Cette enceinte, donc, elle est surveillée, bien sûr. Mmh. Elle, elle peut être assez en continu. Si je prends l'exemple de l'usine de Schwarzenbach qui se trouve sur le quartier de Boussieu, c'est une usine qui a marqué tout le quartier, qui garde d'ailleurs une identité très forte liée à cette usine pensionnat. Et elle s'étend d'ailleurs sur 3 communes, sur la commune de Bourgoin, sur la commune de Nivola et sur la commune de Ruy. Parce que...
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Et pourquoi ? Parce que si l'usine pensionnat a été la première formule pour fixer la main-d'œuvre, quand cette formule, cette forme d'industrie a disparu, pratiquement avant la Première Guerre mondiale, elle s'est un peu prolongée chez nous, mais au moment de Schwarzenbach, mais ensuite c'est la cité ouvrière qui a pris le relais pour fixer la main-d'œuvre près de l'usine. Et donc, il y a eu plusieurs cités qui se sont créées autour de l'usine Schwarzenbach, une cité rose, une cité verte, enfin, elles avaient leur façon d'être reconnaissables. Et nous avons parlé de tous les éléments qui constituaient l'usine pensionnat. Et pour Schwarzenbach, par exemple, on voit que, on voyait, parce que bien sûr, elle a été... grandement détruite par des incendies.
Des incendies, oui.
Et on voyait que l'enceinte, on voit encore l'enceinte qui part de la maison de maître, qui est aujourd'hui l'hôtel-restaurant Les Séquoias, c'était la maison maître Schwarzenbach, et qui a elle-même sa conciergerie d'ailleurs. Et le mur en pierre taillée part vraiment de la maison de maître et va entourer l'usine elle-même, proprement dite. Et il y avait même, toute l'architecture de la maison de maître est assez symbolique aussi, le balcon d'honneur, si je puis dire, regardait l'usine. Il y avait une allée cavalière qui allait de l'usine jusqu'à de la maison de maître jusqu'à l'usine. Donc, voilà, il y avait beaucoup de symbolisme dans tout ça.
Et on retrouve paternalisme. Paternalisme, voilà, merci.
Oui, le paternalisme, voilà, oui. Alors, c'était un cas un petit peu particulier sur Schwarzenbach, parce qu'effectivement, au départ, c'était des personnes, des soyeux lyonnais, la famille Auger, qui avait acheté ce moulin et qui voulait faire un moulinage. Et puis ensuite, ce site a été acheté par la famille Schwarzenbach qui, pour éviter, contrecarrer un peu les barrières douanières, est venu s'installer près de Lyon parce qu'ils avaient bien sûr l'ambition de concurrencer les fabricants lyonnais. Et donc, ils se sont installés sur ce site et en venant de Suisse et en motivant avec eux d'autres tisseurs suisses ou fabricants. Et donc, on s'est retrouvé bien sûr avec des grandes familles, Perregaux bien avant Diedrich, mais Diedrich, Barre, d'autres familles protestantes. Et il y avait une vraie communauté protestante sur Bourgoin-Jallieu, qui se retrouve d'ailleurs par des constructions, le temple, qui se retrouve aussi par des tombes particulières dans le cimetière de Jallieu. Enfin, bon, on a gardé cette venue de cette communauté protestante qui a été très active et qui a beaucoup participé à l'essor de Bourgoin-Jallieu.
Et maintenant, on peut aussi, en allant au musée de Bourgoin-Jallieu,
oui,
on peut revoir et on en apprend, même si on va plusieurs fois, on en trouve toujours, on apprend toujours beaucoup,
oui,
plus.
Oui, puis on a la maquette, il y a la maquette de l'usine qui est très intéressante. Ça permet justement de bien visualiser cette organisation. Alors, est-ce que toutes les usines pensionnats étaient bâties sur le même modèle ? L'usine Schwarzenbach était quand même très, très importante, mais il y en a eu d'autres dans la région, à Rives en particulier, des usines qui étaient tout aussi importantes. Alors, ce qui est très caractéristique, c'est la maison de maître, ou la chapelle, bien sûr, qui donne cette connotation, enfin, cette qui justifie ce nom de usine couvent. Et des bâtiments qui sont des bâtiments pour la fabrication, mais aussi tout un ensemble de bâtiments, comme je l'ai dit, le réfectoire, les dortoirs qui permettaient d'abriter les ouvrières et de les héberger, soit à la semaine, soit pour plus longtemps, parce qu'on allait recruter assez loin, on allait recruter dans les montagnes, au-dessus de Voiron. Ça nous semble tout près aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas trop avant. Et puis en Savoie, et parfois même en Italie, et parfois c'était même les religieuses qui partaient recruter, parce que c'était une caution morale. Il faut savoir aussi que si les ouvrières... Ça a été pour les gens d'ici une sécurité, parce que envoyer ses enfants ou travailler à Lyon, c'était un danger plus grand quand même.
Parce que c'est la ville.
C'est la ville.
J'allais vous demander, les canuts, ils continuent pendant ce temps-là?
Oui, il y avait quand même des maîtres.
Ils continuaient, oui. Malgré les usines pensionnats. Oui, oui.
C'était une forme de développement qu'avait... pour lequel avait opté la fabrique lyonnaise. Mais effectivement, Lyon gardait sa spécialité autour de la soie. Et justement, le fait qu'il y ait eu des établissements au plus près de la campagne, eh bien, ça rassurait les parents et ça permettait d'éviter certaines déviances d'une vie urbaine ou d'utilisation de certaines jeunes filles très... très, très jeune, justement, et qui parfois tournaient mal quand elles étaient dans le milieu.
Laissées à elles-mêmes.
Voilà, ça a été une sécurité pour les gens. Donc voilà ce que je peux dire sur... vous avez eu beaucoup d'usines pensionnats dans le Bas-Dauphiné, et puis ailleurs aussi, dans la Drôme, dans l'Ardèche, dans la Loire, dans l'Ain. D'ailleurs, j'indiquerai celle de Jurieu, les établissements Bonnet qui se visitent, c'est très intéressant. Mais toutes les usines pensionnats n'avaient pas la même réputation. Il y avait la grande fabrique... vers Voiron était, vers Rives était très très coté, enfin si je puis dire coté, c'est un terme actuel, mais les installations qui recevaient les ouvrières étaient bien, puis vous en aviez d'autres qui étaient beaucoup plus aléatoires, avec des dortoirs qui étaient dans les sous-pentes, on couchait deux par lit, les draps étaient changés deux fois par an, enfin bon, il y avait aussi il faut bien penser que ce système était critiqué, parfois de manière exagérée, mais parfois, pour certaines usines, de manière tout à fait justifiée.
Merci beaucoup, Elisabeth, et nous allons rentrer dans ce sujet à la prochaine, pour notre prochaine émission.
Oui, on verra la vie à l'intérieur.
À l'intérieur, ce qui me préoccupe et m'intéresse grandement. Merci beaucoup, Elisabeth, et puis merci, Laurent.
Merci à vous.
Et à tout à l'heure.